J'ai réduit totalement ce qui
se passe. C'est terrible de vous m'aider au cas d'endroit. Je pense qu'en combinant les deux, la crise de l'hypocrisie va trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et bienvenue à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Si vous nous rejoignez, dans un article paru le mercredi 4 mai dernier, le journal Le Phare fait une analyse sur le retard accusé dans la mise en place effective du comité préparatoire au dialogue initié par le chef de l'État. Le journal fait savoir qu'Edem Kodjo éprouve d'énormes difficultés pour tenir un dialogue réellement inclusif. Selon le journal, il est quasi impossible pour le facilitateur d'obtenir un consensus autour des termes de référence des partisans ou des non-partisans du dialogue. Certains observateurs estiment que cette difficulté pourrait influencer la suite du processus électoral. Qu'en pensez-vous? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081 890 6315 pour votre intervention en direct. Julie Pesa Bongonde est au standard, Sylvain Matundo à la mise en onde, Thierry Lamégie à la réalisation de ce programme coordonné et présenté par J.R. Nguembo sous la supervision de Martin Sebouzagué. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 6315 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Nguembo.
Voilà, mesdames et messieurs, merci encore de votre fidélité à Radio Okapi. D'un côté, les préalables posés par l'UDPS constituent, selon certains observateurs, une épine sur les pieds de la facilitation. De l'autre côté, l'insistance des autres partisans au dialogue qui estiment être indispensable dans la constitution dans la composition de ces comités préparatoires constitue également une pesanteur quant à l'avancée de cet processus de la démocratie en République démocratique du Congo. Maurice, vous êtes à Kinshasa. Vous allez ouvrir le débat de ce jour. Maurice, bonjour.
Oui, bonjour, Jérôme. Bonjour, je salue aussi l'ensemble de nos auditeurs qui nous suivent de partout.
Alors, selon vous, qu'est-ce qui constitue aujourd'hui les difficultés dans la facilitation de pouvoir mettre en place de manière effective les comités préparatoires?
Écoutez, Jérôme, avant de parler même d'obstacles, il faudra d'abord rappeler, parce que vous m'avez toujours en fait interpellé sur ma position de soutenir en fait ces dialogues politiques que nous avions voulu pour éviter au pays une catastrophe qui ne pouvait peut-être pas faciliter ou favoriser la paix sociale en fait dans notre pays. Et c'est là face à cette volonté délibérée des gens qui sont au pouvoir de chercher par tous les moyens à se maintenir au pouvoir au-delà en fait de l'être pris par la Constitution. C'est la raison pour laquelle nous avions soutenu la tenue de ce dialogue. Mais nous avions voulu un dialogue qui doit aller dans le sens en fait des respects de la Constitution. C'est juste un dialogue de recadrage pour trouver en fait mettre en place des conditions susceptibles de favoriser une élection crédible.
Oui, gagner le temps parce que les motivations sont déjà connues. Maintenant, qu'est-ce qui bloque?
Ce qui bloque, c'est les problèmes se trouveraient à l'impartialité, même en fait la problématique de l'impartialité du facilitateur. Si nous avions souhaité qu'il y ait un facilitateur dans ce dialogue, c'est pour ne pas en fait réduire ou réinviter plutôt le même scénario, le même scénario que celui qu'on avait vécu pendant en fait les concertations nationales où tout était déjà boutiqué, c'était en fait du prêt-à-porter où les participants pouvaient aller juste pour une mascarade de dialogue ou de concertation. Pourtant, les résolutions étaient en fait assujetties à la volonté du président Kabila qui devait en faire tout ce qu'il voulait le faire. Raison pour laquelle ceux qui soutiennent les dialogues, nous avions voulu que ces dialogues soient sous en fait la médiation internationale. Mais à notre grande surprise, celui qui vient, M. Kodjo, va en fait se lancer dans une démarche à faciliter ou à favoriser un camp. Vous voyez que M. Kodjo, par exemple, je peux vous donner un exemple pour illustrer ce que je suis en train de débiter ici à l'antenne. Vous avez vu que M. Kodjo avait souhaité, il y a je crois 2 semaines, d'aller rencontrer Moïse Katumbi au Katanga. mais il a été contré par une opposition farouche du pouvoir. Le pouvoir ne lui a pas donné cette opportunité d'aller rencontrer M. Katumbi. Donc ça, c'est déjà un problème. Et l'UDPS avait, par exemple, en son temps, proposé que, vu l'aventure de nos politiciens, qui sont toujours des opportunistes, comme je disais tantôt, qui en attendent, ceux qui mangent dans tous les râteliers, qui attendent qu'il y ait des occasions pareilles pour en fait, sauter à la maison. Alors, l'UDPS avait souhaité que les 12 postes réservés à l'opposition politique lui soient accordés. Non pas dans le sens que l'UDPS puisse aligner que des membres de son parti, mais c'est juste parce que l'UDPS comprend en fait la scène politique.
Oui, Maurice.
Vous savez que l'UDPS est dans l'opposition depuis plus de une trentaine d'années.
Oui, Maurice. Alors, Maurice, parce que vous parlez de l'UDPS, nous savons que dans une lettre adressée à la facilitation, l'UDPS donnait un ultimatum, c'est-à-dire au-delà du 24 avril, selon l'UDPS, le dialogue était sans objet, c'était inopportun.
Non, en fait, l'UDPS avait, à son temps, même juste avant l'expiration du délai, donc cette allusion, l'UDPS avait recadré les choses, avait informé en fait l'opinion nationale et internationale que en fait les choses semblaient déjà marcher, en fait avec son ultimatum, l'ultimatum lancé par elle, les choses semblaient déjà en fait, marcher à la satisfaction en fait de ces désidérata. Ça a été en fait notifié en fait à l'opinion nationale. Nous avons lu le communiqué comme tout le monde dans la presse. Alors, mais le problème qui bloquerait, c'est par rapport en fait à tout ce scénario. Il observe que non, le monsieur qui est venu en fait pour qu'il soit au-delà de tout, en fait qu'il soit, qu'il transforme un peu toutes les influences politiques, tout ça, politiciennes. Mais ce monsieur n'est pas en fait impartial. Alors, raison pour laquelle
oui.
Nous avons dit, ils ont demandé que qu'il soit accompagné, ce monsieur soit accompagné d'un panel d'experts de la communauté internationale pour en fait booster même en fait la son impartialité. Alors sinon ça poserait des
merci, merci beaucoup Maurice d'avoir appelé de Kinshasa. Il dit vous êtes dans la ville province de Kinshasa également. Il dit bonjour.
Bonjour, monsieur Gilles.
Voilà, il y a Maurice qui vient d'évoquer la problématique de l'impartialité, de la facilitation. Est-ce que vous pensez, comme les autres, qui estiment que cette difficulté pourrait influencer même la suite du processus électoral?
Oui, personnellement, je soutiens aussi l'avis de mon prédécesseur Maurice, parce que à ce dialogue-là, la majorité n'ira pas à l'ordre dispersé. Si l'opposition fait l'erreur d'y aller à l'ordre dispersé, elle perdra aussi comme elle a fait lors des concertations nationales et ça sera un échec total. Je pense que les recommandations de l'UDPS sont fondées pour que la majorité n'ait pas ce pouvoir-là de manipuler aussi ces fameux dialogues. C'est pourquoi moi aussi je soutiens les recommandations de l'UDPS. C'est un dialogue qu'on ne doit pas aller à l'ordre dispersé pour l'opposition.
Oui, mais le problème, il n'y a pas que l'UDPS qui, en fait, estime d'avoir été victime de la fraude électorale en 2011. Il y a pas mal d'autres partis politiques qui se retrouvent, en tout cas, qui se disent être aussi dans la même situation et qui trouvent vraiment, en fait, l'occasion pour eux de participer au dialogue. Et voilà que bon nombre parmi eux ont déjà écrit d'ailleurs à la facilitation pour montrer à ces derniers, la nécessité qu'ils fassent partie de ces assises, de cette rencontre qui, en fait, mettra autour d'une même table les politiques et la société civile.
Moi, j'aurais souhaité que ces gens-là qui soutiennent les dialogues, donc soit derrière l'UDPS pour que l'opposition ait aussi la force cette fois-ci. Parce que si on parle, si les autres partis là, moi je pense qu'il y a beaucoup des opposants qui sont des opportunistes. Ils doivent profiter seulement pour ce dialogue ici, pour être manipulés pour la majorité et que l'opposition n'aura pas vraiment cette force-là d'imposer les recommandations.
Voilà, alors vous pensez qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque pour la mise en place effective du comité préparatoire? Selon vous, qu'est-ce qui bloque?
Ce qui bloque, ce sont les recommandations de l'IDPS. Parce que la majorité, moi, je pense qu'elle ne sera pas d'accord avec ces recommandations-là. C'est pourquoi elle veut le contraire de telle cause, accepter les recommandations de l'IDPS.
Merci beaucoup, Eddy. Alors, José, vous êtes à Goma. Bonjour, José. José, vous êtes avec nous?
Vous êtes en ligne, je vous suis.
Oui, allez-y, vous avez la parole.
En fait, je pourrais intervenir encore une fois. Je pense que le dialogue qu'on en avait dit, rappelez-vous, avec toutes sortes de méthodes que vous avez réalisées, on avait dit que le dialogue, c'était un mort-né. Tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est un processus. Même si ça pouvait se tenir, rien n'ira. Parce que lorsque vous voyez, à suivre l'auditeur qui disait qu'il intervenait, qu'il faut rencontrer un autre leader politique, parce que le dialogue, c'est pour chercher la solution de la crise. Maintenant, les facilitateurs doivent rencontrer tout le monde. Et lorsqu'ils veulent rencontrer tout le monde et qu'il y a maintenant des empêchements à son égard où ils ne pouvaient pas rencontrer les autres compte tenu à soi des raisons qui sont le leur, vous comprenez que c'est déjà mal parti. Et c'est une façon aussi de mettre la charrue devant le bœuf. Parce que lorsqu'on veut dialoguer, on doit consulter, on doit voir pour que apparemment le dialogue puisse avoir lieu et que quand on va se rencontrer, il y a des concessions de part et d'autre. Alors qu'on voulait, on ne veut pas qu'une autre partie puisse assister au dialogue. Et je ne sais pas comment on va se faire, comment ça va se passer par rapport aux différentes concessions qui devraient être faites quand il y aurait ce dialogue-là. Moi, je pense que même si on pouvait se rencontrer, rappelez-vous, j'avais intervenu l'autre fois pour discuter du dialogue, c'était un
jour. Oui, José, je crois qu'à ce niveau, nous avons déjà dépassé les stades. De l'opportunité ou non de la tenue de ces dialogues. Actuellement, le facilitateur est bloqué à un certain niveau, c'est-à-dire fédérer tous les termes de référence du côté de ceux qui sont partisans du dialogue ou encore des non-partisans du dialogue. Alors aujourd'hui, selon vous, qu'est-ce qui bloque? Est-ce que vous pensez que l'issue pourrait intervenir, disons, dans les jours à venir?
Je voudrais vous dire ceci, mon frère. Je voudrais vous dire ceci. Lorsqu'on est facilitateur, on veut, n'est-ce pas, consulter les différentes positions. Et nous appelons même à la phase de préparation du dialogue, bien sûr. Mais lorsqu'il y a refus catégorique des autres, rien ne va marcher. Le problème, c'est quoi? L'IDPS a demandé, n'est-ce pas, qu'on lui réserve, n'est-ce pas, je ne sais pas si vous le savez, ou comment. Et vous comprenez que c'est une façon de demander trop pour bloquer. Parce qu'avec cette façon de demander, je ne pense pas que les autres vont concéder. Lorsque les autres ne vont pas procéder, rien ne va marcher. C'est une façon aussi, ce sont des enjeux politiques, comprenez. Donc, Kodo n'a pas une tâche facile, mais je ne pense pas que le dialogue va aboutir. Ça, c'est mon point de vue.
Ouais. Alors, donc, vous ne pensez pas que cela peut influencer la suite du processus électoral?
Vous avez dit?
Est-ce que vous ne craignez pas, vous ne redoutez pas que cela puisse influencer la suite du processus électoral?
Influencer, bien sûr, parce que la Constitution est claire. Alors, on ne veut pas se référer à la Constitution et on cherche d'autres voies qui ne vont pas permettre à ce que les élections puissent avoir lieu. Bon, vous comprenez que tout est bloqué. Tout est bloqué. Quand il n'y aura pas d'élection, même le dialogue n'aura pas lieu. Donc, vous comprenez, même si ça pouvait avoir lieu, mais il n'y aura pas de bonnes résolutions qui seront acceptées par tout le monde.
Merci beaucoup, José, d'avoir appelé 081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Radio Okapi encourage les jeunes talents congolais. Auteurs, compositeurs, interprètes, une adresse mail est à votre disposition. musique@radiokapi.net. Envoyez vos chansons. Après sélection, elles feront peut-être partie de la playlist ou d'une émission de Radio Okapi. Faites-vous connaître, des millions d'auditeurs vont écouter votre musique. musique@radiokapi.net. Allez-y, on vous attend.
Parole aux auditeurs.
La grande question qui revient sur toutes les lèvres des personnes qui donnent de la voix par rapport à cette question est de savoir à quand la mise en place effective du comité est préparatoire. Ça fait plus de 3 semaines maintenant que se sont écoulées donc depuis l'annonce par Edem Kodjo de l'imminence de la mise en place de cette comité. Alors la participation de l'IDPS avec tous les préalables posés et constitue également une épine sur les pieds de la facilitation. Il n'y a pas que l'IDPS qui évoque le cas de fraude électorale qui, au fait, selon l'UDPS, le met dans les cas de victimes. Il y a d'autres partis qui aussi tiennent à montrer, au travers des termes de référence, leur indispensabilité de pouvoir participer à ce dialogue. Voilà, nous allons poursuivre ce débat. Donc, avec vous, le débat citoyen, Cléo, vous êtes à Kinshasa, Olivier à Kikwite. Cléo, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, monsieur JR, bonjour à tous les auditeurs de la radio Kapi.
Vous avez la parole, Cléo.
En fait, monsieur JR, moi je voulais vous montrer que la situation est claire. C'est normal que l'UDPS puisse essayer de réguler en ce qui concerne le comité de préparation des dialogues. Parce que l'UDPS a découvert que la majorité a largué une bombe de personnes qui se sont déguisées en prédit, tandis qu'ils sont des loups. Alors ces personnes se montrent opposants, tandis qu'ils ne sont pas opposants. Alors ils se sont invités dans l'opposition pour ne pas montrer leur propre face, afin de pouvoir faciliter au pouvoir en place, de pouvoir continuer à gérer le pays. C'est pourquoi l'UDPS a vu aussi que ce n'est pas possible de pouvoir facilement donner place à ces infiltrés. Ce n'est pas dire que l'UDPS fait reculer les dialogues, le comité préparatoire. Et comme preuve, vous verrez que ces personnes ne sont pas directement passées derrière Étienne Tshisekedi parce qu'il a combattu, parce qu'il a parlé du dialogue avant, mais ces personnes ont créé leur propre camp, on comprend facilement.
Mmh. Donc pour vous, c'est vrai, il n'y a que l'UDPS qui a raison, même si nous restons dans la logique que l'opposition elle est plurielle. Je crois que la population a au moins le crédit, a la confiance envers l'UDPS que d'autres partis de l'opposition.
Parce que d'autres partis disparaissent après un temps. On voit, ils sont tantôt à la majorité, tantôt les jeunes sont opposants, mais l'UDPS est toujours dynamique. L'UDPS ne bouge pas. Comment la population pourra avoir confiance aux personnes qui ne sont pas dynamiques? Il vaut mieux avoir confiance à une personne qui s'est battue depuis longtemps. Parce que déjà, là, pourrait normalement passer derrière Tshisekedi pour dire, bon, nous, on soutient Tshisekedi comme ça, on va voir comment la majorité va encore prendre place. Et ces gens-là, le monde est tantôt de l'autre côté, tantôt de l'autre côté, bon, nous, on ne va pas avoir confiance à eux.
Est-ce que vous ne craignez pas que cela puisse avoir vraiment une influence sur la suite du processus électoral?
Oui, nécessairement, vraiment, il y aura des vrais problèmes tant que la majorité ne veut pas se déplacer. Parce qu'elle a déjà largué sa bombe de personnes pour pouvoir toujours chercher à se maintenir. Mais il n'y aura pas de solution. Il faudrait qu'ils voient quoi faire. Et moi, je vois aussi que c'est les problèmes de la volonté. Ils n'ont pas la volonté de pouvoir chercher la paix sociale, chercher la paix de la population congolaise. Parce que si je veux toujours continuer à chercher des problèmes où il n'y en a pas, bon, il y aura toujours des problèmes.
Merci beaucoup, Cléo, d'avoir appelé de Kinshasa. Olivier, vous êtes à Kikwite. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Ok, merci, Pierre. Bonjour à tous les auditeurs. Oui. Ok. Allô?
Quel est votre avis, Olivier?
Ok, voilà. Moi, je pense que si nous devons parler directement de ce qui bloque, c'est une chose. Le facilitateur, on ne doit pas l'accuser d'impartialité, non. Le facilitateur a des difficultés parce que les termes de référence sont très flous. Et alors, lorsqu'il essaye un peu de parler avec les différents camps, il se rend compte que tous ont des objectifs déjà fixés et arrêtés. Les uns veulent retarder les choses, les autres voudraient qu'on aille assez vite, mais alors, et chacun campe dans sa position. Alors, je vais vous donner un exemple. Dans le cas de la majorité, par exemple, je vous rappelle, avant-hier, le président du Parlement passe pour dire que lui, en tant que membre de la majorité, il ne peut pas accepter qu'on lui parle des choses négatives qui concernent la majorité. Et le facilitateur a la même difficulté. Quand il prend les termes de référence, il parle au sein de la majorité, il dit, écoutez, voilà, est-ce qu'on ne peut pas modifier légèrement cet aspect? On lui dit, non, monsieur, vous êtes venu pour qu'on aboutisse à ce que nous voulons. Alors, vous comprenez que avec ce genre d'exigence, dans un cas comme dans l'autre, le facilitateur se retrouve impuissant. Ça, c'est une chose. Une autre chose, c'est que il y a beaucoup de gens qui comprennent finalement que s'ils se mettent dans un camp, demain, ils auront pas gâteau. Et la population n'est pas considérée cette histoire-là. Or, le législateur a aussi des objectifs. Il a reçu mandat de l'Union africaine, il a reçu mandat des Nations unies. On lui dit, écoutez, allez-y, faites des sorte que la population se trouve dans le respect de la Constitution. C'est ça la difficulté. Donc, on a subjectif et le facilitateur n'est pas impartial. Il a seulement des difficultés parce que les termes de référence sont très 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 flous et avec ça, on ne peut pas avancer. Alors, pour parler du processus électoral, il est bien clair que ce processus est déjà compromis. Donc, nous devons tous nous préparer à sauver les meubles et chacun verra comment s'en sortir. Donc, c'est ça que moi je pense.
Oui, ben alors, Olivier, maintenant, comment sortir de ce groupe? Parce que c'est les temps, selon certaines personnes, les plus favorables, il faut aller vite et sauver le processus électoral.
Oui, ça demande que tout le monde aille de la bonne foi. Ici, il n'est plus question de parler de spécialistes en ceci, c'est de la bonne foi. Faire comprendre aux membres de la majorité, par exemple, que ce qui est négatif est négatif et que dès le plus accepter comme ça. Mais il n'est pas question de dire non, comme je suis de la majorité, moi je ne vois rien en négatif. Tout est positif pour moi. C'est ça le drame, monsieur Thiers. C'est ça le drame.
Alors, quand vous dites que le facilitateur a plutôt des difficultés, il ne s'agit pas là d'une certaine impartialité, comment vous argumentez cette allégation?
Non, justement, c'est que les termes de référence, je dis que les termes sont très flous. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de causes scientifiques qui justifient le dialogue. Mais maintenant, il faut créer des causes. Et je vous assure, j'y ai inventé pour nier les évidences. Quand vous voulez inventer des choses qui peuvent remplacer les évidences, c'est scientifiquement impossible.
Alors, c'est vrai qu'on ne négocie pas devant certaines évidences. Je me dis, vous faites allusion à la Constitution, au délai constitutionnel, à un processus qui a été déjà engagé lorsqu'on avait tous adopté et voté cette Constitution.
Oui, justement, c'est d'autant plus que tout le monde, quand tout le monde passe à la télévision, tout le monde dit nous sommes pour la Constitution. Mais dans les faits, les gens font le contraire. Et c'est là le drame. Et le facilitateur s'est retrouvé bloqué parce qu'il s'est dit mais tout le monde est pour la Constitution. Mais on me demande d'aller dans une voie qui est contre la Constitution. Je fais quoi? Et voilà. Donc, et il a des difficultés. Il ne fait pas faire rapport à ses patrons. Et maintenant, on s'est dit mais on fera quoi? Et donc, ça signifie que la solution réside entre les mains des Congolais. Et je prends ici les politiciens de la RDC, nous avons la majorité et les autres, tous doivent se mettre d'accord qu'il faut reculer pour voir une chose autrement. Donc, je ne sais pas quelle est ma position.
Merci beaucoup, Olivier. Bienvenue, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Quel est votre avis, bienvenue?
Bon, mon avis, j'ai suivi la thématique. Moi, je pense que lier les dialogues au processus électoral, ça ne cadre pas, parce que si aujourd'hui, techniquement, les élections n'auront pas lieu dans les délais constitutionnels, c'est suite à la volonté du pouvoir qui n'a pas voulu organiser les élections. La CENI est là, elle n'a pas réussi les moyens de la part du gouvernement pour organiser les élections. Alors, moi je pense que les dialogues, les participants n'y vont pas pour c'est cotiser de l'argent et donner 1 milliard ou 900 millions de dollars à la CENI pour organiser les élections. Alors, à mon point de vue, le dialogue est inopportun, en ce sens que je pense que dans les pays, nous n'avons aucun problème. Le problème que nous avons, c'était le manque de volonté politique du pouvoir en place pour organiser les élections, sachant très bien que c'était leur dernier mandat. Mais j'ai eu la chance d'être enseigné par un grand professeur, paix à son âme, le professeur Diello. Et dans son cours des droits constitutionnels, il nous disait qu'il y a 5 façons d'accéder au pouvoir, y compris les coups d'État. Moi, je pense que qu'on nous laisse tranquille, que les pouvoirs en place, la communauté internationale, l'Union africaine, les Eden, Koto, ils doivent rentrer chez lui et que les calendriers et la montre nous guident jusqu'au mois de novembre. S'il n'y a pas élection, il y a un vide juridique et la classe politique peut se réunir pour trouver une solution palliative.
Ça, c'est notre débat. Nous avons eu à organiser plusieurs émissions, d'ailleurs, sur les contenus des différents articles de la Constitution qui abordent cette question. Voilà, donc aujourd'hui, nous évoluons avec la thématique liée notamment à la mise en place effective de ces comités préparatoires. Alors donc, nous avons le bureau, oui, les bureaux du facilitateur que nous aurons d'un moment à l'autre parce que nous, dans la réalisation est déjà... Mais est-ce que vous ne estimez pas qu'aujourd'hui, c'est vraiment important que les politiques puissent vraiment se mettre de côté les positions individuelles, les positions personnelles pour aller vers l'intérêt commun?
Bon, à ce que je sache, ce dialogue doit être inclusif. Alors, le caractère non inclusif de ce dialogue ne va pas nous permettre d'aller au dialogue, puisque nous avions eu par le passé les concertations politiques qui avaient arrêté une certaine série de propositions et que le président lui-même avait crié sans priorité. Au moment où nous parlons, nous avons un gouvernement soi-disant de cohésion nationale et que les résolutions n'ont jamais été réalisées. Et croyez-vous que le dialogue, dans son caractère non inclusif, va nous amener où? Puisque il y aura, vous parlez plus de l'IDPS, je ne sais pas si là, c'est l'IDPS qui octroie les statuts des vrais opposants, des faux opposants et consorts. C'est ça, l'opposition est plurielle. Même la majorité aujourd'hui est plurielle. Laissez-moi vous dire ça. Alors, cette absence d'inclusivité ne va pas nous permettre d'avoir un comité, je ne sais pas, préparatoire ou un dialogue inclusif, c'est ça. Alors, comme nous ne serons pas à mesure d'avoir tout le monde autour d'une table, alors il serait mieux de ne pas y aller, de ne pas organiser le dialogue en question.
Voilà, merci beaucoup, bienvenue d'avoir appelé les Kinshasa. Il y a toujours cette question qui revient à quand la mise en place effective du comité préparatoire au dialogue politique, initié par le chef de l'État. Nous avons Patrick qui est à Lubumbashi, d'un moment à l'autre aussi, la réalisation pourrait nous aider à avoir un de membres du bureau de M. Edem Kodjo, je crois que nous avons mené pas mal de démarches, qui a accepté d'ailleurs de participer à cette émission pour éclairer la lanterne des uns des autres, parce que vous avez subi l'actualité ce matin, tous les journaux en parlent, tout le monde se pose la même question, attend la mise en place effective du comité préparatoire au dialogue politique initié par le chef de l'État. Il y a même ceux qui demandent où est passé Edem Kodjo. Je crois que nous aurons la réponse d'un moment à l'autre, juste après ceci.
Au Capitole, du mercredi à jeudi de 21h à minuit, le vendredi de 23h à minuit et le samedi Megamix de 19h à minuit. Au Capitole Noué, tous les mercredis de 21h à 22h, c'est la découverte des nouveaux talents, des nouveaux sons et congolais d'ici et d'ailleurs.
Parole aux auditeurs.
Nous avons encore une demi-heure à parcourir dans cette deuxième partie de l'émission Parole aux auditeurs. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à Radio Okapi et surtout merci d'accepter de participer à cet échange citoyen. Nous avons le plaisir d'accueillir en ligne Cornelius Aïdam, qui est l'assistant de M. Edem Kodjo, et ça nous donne l'exclusivité de l'information par rapport à la mise en place effective du comité préparatoire. M. Cornelius Aïdam, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour.
C'est un grand plaisir de vous recevoir dans cette émission Parole aux auditeurs, ces cadres d'échange citoyens, juste pour éclairer la lanterne des uns des autres. Nous avons tous suivi l'actualité, tout le monde parle, tout le monde se pose la question, où est passé Edem Kodjo et à quand la mise en place effective de comité préparatoire au dialogue politique initié par le chef de l'État?
Oui, je répondrai très brièvement à votre question. Monsieur Edem Kodjo est bien à Kinshasa. Il était absent pendant quelques jours pour continuer les consultations qui se font à l'intérieur de la RDC et naturellement en dehors de la RDC. Vous savez bien que tous les protagonistes ne sont pas rassemblés au même endroit et pour faire le point, il faut à tout moment consulter tout le monde. Pour la deuxième partie de la question, le comité préparatoire sera annoncé et mis en place dès que toutes les parties prenantes auront soumis à la facilitation la liste des personnalités censées les représenter au sein de ce comité.
C'est déjà clair, monsieur Cornelius, mais il y a toujours une inquiétude dans le sens que l'État, par rapport au processus électoral, vous estimez que l'État est encore favorable?
Bon, je crois que ça, le facilitateur lui-même aura l'occasion de vous en parler en long et en large, puisqu'il nous a promis une émission pour la semaine prochaine.
Alors, juste une dernière question avant de nous séparer avec vous, M. Cornelius Haïdam, parce que l'occasion faisant les larrons. Je me dis, aujourd'hui, c'est vrai, le vrai problème, tout le monde parle de problème de l'UDPS, mais au-delà de l'UDPS, il y a d'autres partis, entre autres le M17, qui se réclame aussi être victime d'une fraude électorale en 2011, et il a écrit au facilitateur pour expliquer, réclamer sa participation au dialogue. Est-ce que vous allez tenir compte de toutes ces requêtes?
Encore une fois, je vous dirais que cela relève des strictes prérogatives du facilitateur, qui aura l'occasion de vous en parler en long et en large la semaine prochaine, comme il vous l'a promis.
Merci beaucoup, M. Cornelius Haïdam. C'est vrai que nous vous avons pris à pied levé pour éclairer la lanterne des uns des autres. Je crois que M. Demkojo nous a confirmé que la prochaine fois, il pourrait faire une émission Parole aux auditeurs. Merci, Cornelius, d'avoir réservé la publicité. Merci. Voilà, nous poursuivons avec vous, chers auditeurs, vous qui nous rejoignez, on voulait mettre le point. Vous avez suivi l'assistant de Demkojo, ancien ministre de la communication du Togo, qui est son assistant. Donc, Patrick, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour. Mais moi, je voudrais dire juste que c'est la majorité. À mon grand avis, il bloque le dialogue. Pourquoi je dis ceci? Je pense que la majorité, c'est la partie qui a prôné le dialogue. Et je pense que c'est aussi qui devrait être le premier garant de ce dialogue. Je pense que la bonne marche de ce dialogue doit réaliser la compétence des dirigeants de la majorité. Pour expliquer que ce sont parfois les recommandations de l'UDPS. Moi, je pense que les recommandations de l'UDPS ne pouvaient que les arranger. En fait, l'UDPS a accepté à aller au dialogue. Quand même d'autres peuvent bloquer et comprendre, ça ne peut pas marcher selon ce que nos secrétaires ont expliqué. Mais moi, je pense que l'UDPS a raison et que si la majorité compte tenir ce dialogue ou compte partir à ce dialogue et pourtant que le dialogue serait un moyen participant pour déclencher cette situation qui prévaut à dans les jours à venir détruire notre démocratie et notre accepter toutes les formations plutôt de l'opposition et accepter aller au dialogue parce que c'est un truc qui a, je pense qu'ils ont toute capacité et bien vouloir que les choses aillent bien dans notre pays.
Voilà, nous allons prendre également Joséphine qui est à Boston. Joséphine, vous êtes avec nous à Boston aux États-Unis. Bonjour.
Ah, bonjour Radio Okapi. Merci beaucoup de m'avoir passé la parole. Moi, ce que je vais dire d'emblée, vous savez, dans la démocratie, il n'y aura, on peut jamais atteindre le réel inclusivité. Je ne sais pas ce qu'il dit. Le dialogue doit être inclusif. Ça ne s'atteindra jamais. Et le consensus tout autour du terme de référence. Dans la démocratie, ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas amener tout le monde sous la table. Ce que Dom Kojo a déjà fait, il a déjà donné il a déjà donné à la société civile la liste, il a déjà donné la liste aussi à l'IDPES. C'est à l'IDPES et la société civile et la MP d'amener les gens qui vont venir avec. Lui n'a pas allé encore au Katanga, n'a pas allé encore voir si c'est Kamere ou là. Il est en train de faire le travail qu'il a déjà demandé aux autres de faire. C'est comme un monsieur, parce qu'il est cuisinier quelque part, quand il rentre dans la maison, il ne laisse pas sa femme à préparer, lui il continue à préparer même à la maison. Et Dom Kojo, il est en train de faire passer le temps pour rien. Qu'il laisse les autres faire le travail, amener tout le monde à table qu'il demande. Il ne peut pas encore aller suivre les autres. Merci, c'est ça mon apport.
Merci beaucoup, Joséphine. Richard, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, Radio Capi.
Quel est votre avis?
Bonjour aussi à tous les visiteurs.
Quel est votre avis,
Richard? Mon avis, je pense que ce dialogue n'aura pas lieu. Pourquoi? Comment voulez-vous que les gens partent au dialogue tant qu'ils sont traqués par la majorité? Aujourd'hui, à Lubumbashi, il y a toute une panique, tout ce qui est comme psychose. On arrête les gens, on est en train de casser des histoires. Comment les gens vont avoir le courage pour aller au dialogue? Ça ne sert à rien. On va aller au dialogue avec qui? C'est la qui fait des dialogues, ils sont en train aussi de créer des troubles. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on perd seulement
les gens.
Allons jusqu'à
novembre. Alors, Richard, aujourd'hui, c'est vrai, la mise en place effective de comités préparatoires au dialogue, pose encore problème. Vous venez de suivre à l'exclusivité Cornelius Aidama qui, souligne que la facilitation travaille encore pour obtenir un consensus autour des termes de référence des partisans ou des non-partisans du dialogue.
Bon, ça, c'est juste. Bon, c'est des temps qui sont en train de perdre. Soit, comment expliquer que. Mais le terme de référence du dialogue n'est pas clair. Tout ce qu'ils vont faire là, c'est pour se rattraper, mais ils vont toujours aboutir au chaos.
Merci beaucoup, Richard Lubumbashi. Nous avons également un autre Richard, Dr Richard, cette fois-ci à Kinshasa. Bonjour, Dr Richard.
Bonjour, J.R., bonjour à tous les auditeurs et félicitations à tout le monde qui a parlé.
Quel est votre avis?
Oui, qu'est-ce qui bloque? Vous savez que M. Kodjo, c'est un dinosaure politique de l'OUA. Et vous savez que quand Tshisekedi avait commencé sa lutte, l'OUA, donc l'Organisation de l'Unité Africaine, qui est le syndicat des présidents de la République d'Afrique, était contre Tshisekedi. Donc, Tshisekedi et Eden Kodjo, ils se connaissent. Eden Kodjo restait dinosaure avec les idées d'acclamer pour un président à vie, d'acclamer pour un président du parti État, des choses comme ça. C'est un monsieur qui n'a pas évolué. Même celui. Qu'est-ce qu'il a dit à Yadema récemment? Il léchait les pattes de Yadema. Comment vous n'allez pas comprendre? C'est ainsi qu'on doit atteindre à cet homme les délégués, un panel avec les délégués de l'OIF, un panel fait de délégués de l'Union africaine, un panel fait aussi de délégués de l'Union européenne. C'est un dinosaure politique des partis États. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas?
Voilà. Alors, pour vous, qu'est-ce qui bloque, Dr Richard? Vous n'avez pas répondu à cette question.
Oui, ce qui bloque, c'est ça, son méthode de travail. Il est venu faire quoi?
Mais son assistant vient de dire, vous avez suivi son assistant qui vient d'intervenir tout à l'heure, dans parole aux auditeurs, qui a évoqué la difficulté de pouvoir obtenir un consensus autour du terme de référence.
Oui, mais le terme de référence. Aux accords, ou bien au traité ou accord d'Addis Abeba, ou à l'ordonnance présidentielle, qui est en fait la vision de l'AMP. C'est ça le problème. Devant la calamité sociale du peuple, devant l'incompétence d'organiser les élections, devant l'incompétence de donner de l'eau, de l'électricité au peuple, et aujourd'hui, Pierre est tombé, les salaires sont bloqués là-bas. Devant quoi? Quel est ce programme par rapport à qu'est-ce qu'on va gagner dans cette histoire? Est-ce qu'un chauffeur qui rate d'arriver à Kengé, parce qu'on lui a donné un véhicule neuf, il s'arrête à Kinkolé avec un moteur foutu, parce qu'on a mis le saillet foutu, mérite encore d'être écouté? C'est ça le grand problème.
Mais alors, docteur Richard, une fois que l'accord n'est pas trouvé, le consensus n'est pas trouvé, vous ne pensez pas comme les autres que nous allons nous retrouver devant une difficulté qui peut influencer la suite du processus électoral?
Mais à qui la faute? Vous êtes un père de famille. Peut-être tout le monde venir danser et chanter dans votre maison. Pour tout lapider, à la fin vous allez condamner qui? Les enfants, les visiteurs ou vous-même?
Merci beaucoup, docteur Richard. Jacques, merci. Vous êtes à Calais. Bonjour, Jacques. Allô, Jacques.
Bonjour, bonjour, monsieur le... Allô, bonjour, monsieur le journaliste. C'est Jacques depuis Kalemie dans la province du Tanganyika.
Oui, vous avez la parole, Jacques.
Ok, merci beaucoup de m'avoir abordé.
Est-ce que vous pouvez, vous pouvez éteindre votre poste de récepteur, parce que ça fait un mauvais retour à l'antenne, Jacques.
Oui. Ok, merci beaucoup, je l'éteins.
Oui.
Le retard des dialogues... Enfin, le retard de l'organisation du comité préparatoire de dialogue tel que M. Joseph Kabila détermine déjà l'échec non seulement de son adoption, mais aussi l'échec du résultat attendu par ce dialogue. Et ceci place Edem Kodjo devant un obstacle difficile à franchir, lequel est lié aux différents langages qui opposent les acteurs politiques. Les uns sont d'accord pour le dialogue. Les autres, par contre, disent non. D'où l'essentiel pour Edem Kodjo serait de chercher un deuxième mécanisme, car le premier est sans effet. Merci beaucoup.
Voilà, merci beaucoup d'avoir appelé Jacques de Calémie. Nous aimerons toujours avec cette gouvernateur la question attend la mise en place effective du comité préparatoire au dialogue politique initié par le chef de l'État. Plus de 3 semaines maintenant, se sont roulées donc depuis l'annonce par Edem Kodjo de l'éminence de la mise en place de ces comités, la participation de l'IDPS avec plusieurs préalables et également d'autres partis politiques qui viennent s'en mêler en posant disons à l'estimant qu'ils sont également indispensables, le fait qu'ils sont aussi comptés parmi les victimes de la fraude électorale de 2011. Voilà, donc j'ai autant de questions, autant de préoccupations. 081-890-6315 pour votre participation en direct.
Au pays des léopards, le ballon est roi et le football a désormais son émission. Au Capitoux, chaque dimanche de 18 à 19h. Autour d'un invité, l'équipe du sport vous invite à réagir en direct sur l'actualité après les matchs du jour. Coupe, championnat, Ligue des champions, Radio Capi vous donne la parole. Au Capitoux, c'est en direct et c'est le dimanche de 18 à 19h. Appelez le 081-890-6489.
Parole aux auditeurs, pour participer, 081-890-6315 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguema.
Nous entamons le dernier quart d'heure de cette deuxième heure de l'émission Parole aux auditeurs. Maître Dominique, vous êtes en Boujimaï, Jonas Amatadi, si vous nous rejoignez. Donc, bienvenue dans Parole aux auditeurs. Maître Dominique, bonjour.
Bonjour, J.R.
Quel est votre avis?
Ok, merci bien, J.R. Je voudrais vous dire ceci d'entrée de jeu. Nous avons devant nous des politiciens qui veulent seulement s'arroger le titre ou bien qui veulent se faire opposants pendant qu'ils ne le sont pas. Je remercie Mme Joséphine, je la remercie beaucoup. Il faut que l'UDPS entraîne ceux qui sont de l'opposition, parce que tous reconnaissent quand même que l'UDPS est la fille aînée de l'opposition. Tout le monde reconnaît ça. Comment on le reconnaît? Nous leur demandons de faire confiance encore à l'UDPS, parce que par rapport au dialogue, nous savons que Vital Kamerhe n'est pas d'accord avec le dialogue, ainsi que sa suite. Nous savons encore qu'aujourd'hui, le CEP n'est pas d'accord avec le dialogue. Mais nous savons aussi que il y a des gens qui s'appellent opposants, mais qui flirtent avec le gouvernement en place. Parce que prenez par exemple quelqu'un qui vous dit nous allons au dialogue pour avoir une transition de 3 ans où Kabila va diriger. Vous voulez que cet homme-là vienne à l'opposition? Je crois que c'est non. Je crois que c'est non, qu'il se range directement du côté du pouvoir en place, parce qu'il reconnaît le pouvoir, mais il se présente comme opposant. Là, alors, l'UDPS dit, nous avons été blessés à la conférence nationale souveraine, nous avons été blessés à San City. Aujourd'hui, l'UDPS dit, non, Nous devons aller au dialogue. Quand l'UTPS l'a dit, Kabila n'avait pas encore dit qu'il y aura un dialogue. C'était le 13 février 2015 que l'UTPS a sorti la feuille de route du dialogue. Ce n'était pas un problème de Kabila. L'UTPS ne pouvait rejoindre Kabila. Par contre, Kabila a compris au mois de mai, le 24 mai, c'est alors que l'on a envoyé des gens parler avec l'UTPS par rapport à quoi et au dialogue. Aujourd'hui, ceux de l'opposition qui sont là, qu'ils comprennent que l'on ne prendra pas tout le monde comme Mme Joséphine l'a dit, il y a 12 places. Est-ce qu'il faudra que tous ceux-là qui se réclament opposants soient sur cette liste? C'est impossible, M. JR. Alors, maintenant là, ça c'est une première difficulté de ceux qui s'appellent opposants. Il faut qu'ils comprennent. Il faut qu'ils comprennent que l'UTPS les représente à ses titres, mais pour participer au dialogue, ils pourront venir. Par rapport à la liste, donc ils s'abstiennent, qu'on laisse seulement l'UTPS organiser comme elle organise. Maintenant, le deuxième problème est celui-ci, le problème qui bloque JR. Imaginez Mbujimayi, le 24 avril, tout en citant un meeting où l'on dit pour cette ordre que il n'y aura pas d'élection en 2016. Monsieur Kabila restera au pouvoir jusqu'à quand on va organiser les élections, même en 2018, même en 2019. Ça s'est dit à Mbujimayi, ça s'est dit à Tshikapa. Imaginez-vous, ainsi, vous voulez que l'on aille au dialogue avec des gens qui sont en train de réfléchir comme ça,
oui.
Pendant que le dialogue que lui devait réclamer, c'est le dialogue en rapport avec la résolution 2276. Oui, M. JR.
En fait, je me pose la question aujourd'hui, si jamais on levait l'option d'accorder à l'UDPS les 12 places et les 12 autres de la société civile, si la sélection à ce niveau de la société civile n'est pas très bien filtrée, quelles sont les garanties pour que vous ayez réellement la vraie société civile?
Ok, pour la société civile, il y a un monsieur qui a répondu, qui a dit ceci, qu'il ne fallait même pas qu'on accorde des places à la société civile, parce que déjà, les histoires se dessinent, hein, tout dépend du point d'application. Il y a des composantes de la société civile qui pleurent avec la majorité, ceux qui soutiennent prénom Kabila pour dire non, laissez-le.
Alors, dans ce cas, ça risque d'être difficile de trouver un consensus autour de des termes de référence des uns des autres.
Non, les termes de référence, M. JR, sont déjà là. La résolution 2277, c'est déjà les termes de référence. Mais maintenant, je vous dis, la majorité bloque les choses parce qu'elle n'est plus dans l'idée du dialogue. La majorité a déjà sauté la table du dialogue. Elle est déjà à la cour.
Merci beaucoup. Merci, Maître Dominique. Et Jonas, vous êtes à Batadi, c'est l'été à Kinshasa. Jonas, bonjour et bienvenue.
Bonjour, M. JR.
Quel est votre avis?
Bon, mon avis par rapport à la thématique d'aujourd'hui, je pense qu'il est quasi impossible pour les facilitateurs d'obtenir un consensus autour du terme de référence, évidemment des partisans du dialogue, parce que les motivations en présence, et quand je parle de motivations en présence, je vois les intérêts que l'on cherche à satisfaire au travers de ces dialogues, qui est considéré comme une négociation. Alors ces motivations sont antipodes, les motivations des uns et des autres, par rapport aux intérêts de chaque partie. Très aux antipodes, alors il est difficile de converger. Par rapport à ces dialogues, je dirais que nous avons pratiquement 3 ans dans ces dialogues, que je considère comme une négociation. Vous avez pratiquement la cartographie des relations. Quand je parle de la cartographie des relations, je vois pratiquement toutes ces parties qui doivent être concernées à ces dialogues, qui doivent être recensées. Or, ces parties qui doivent être recensées, il y a une grande partie des acteurs qui sont partie prenante à ce dialogue, qui refusent pratiquement
d'adhérer à ce dialogue. Donc, quand à cette cartographie des relations, il se pose bien un problème. Là, il y a un problème. Et puis, quand au processus même de ces dialogues, par rapport à l'approche qu'il faut adopter, et pas ça pose aussi un problème. On n'est même pas arrivé au niveau de la gestion des fonds de ce dialogue, de ces négociations. Hein? C'est-à-dire la création de valeurs que pourra produire ce dialogue, et puis la répartition de ces valeurs que pourra aussi produire ce dialogue, ces négociations. Là, on n'est même pas arrivé là. Mais au niveau déjà des relations, de la cartographie des relations, au niveau déjà des approches, ça pose un problème. Et quand on va arriver à la gestion des fonds de ce dialogue, c'est-à-dire à la création de valeurs et pratiquement à la répartition de ces valeurs. Donc, on n'est même pas arrivé là, mais au niveau déjà de la cartographie des relations, au niveau même des approches, tout ça, ça pose un problème. Donc, le dialogue, au départ, déjà n'est pas inclusif.
Oui, alors Jonas, autour de cette problématique, il y a la notion du temps, il y a les consensus, et il y a cette difficulté qui pourrait également influencer la suite du processus électoral.
Oui, mais c'est ce que je viens de dire là. La notion du temps, la notion de même de la cartographie des relations, et au niveau même déjà du départ, déjà, ça pose problème. Donc, le facilitateur lui-même n'arrive pas à trouver un consensus au niveau des acteurs visibles et invisibles qui doivent faire partie de ce dialogue.
Oui, mais par la bouche de cet assistant, qui vient de passer sur nos ondes tout à l'heure, la parole de l'auditeur, annonce que dans les prochains jours, il y aura les comités préparatoires.
Mais les comités préparatoires, qui, en fait, dans lesquels comités préparatoires, où d'autres parties à ces négociations, à ces dialogues, ne seront pas partis, vous voyez. Mais vous parlez en avance d'un dialogue inclusif. Donc, ce dialogue n'est pas déjà inclusif, vous voyez que c'est là une échec à la mort.
Oui, mais ben non,
c'est là où nous devons verser tellement à la mise en pratique des valeurs qui sont dans la Constitution pour trouver une issue à cette crise.
Mais on ne peut jamais compter à un dialogue inclusif dans son ensemble depuis l'histoire du monde. Je crois qu'on ne mettra pas tout le monde autour du même table. On n'y arrivera pas, sinon l'étape va passer largement.
Oui, mais par définition même, la négociation, elle doit être inclusive. Si une négociation ou le dialogue n'est pas inclusif, eh bien, les valeurs qui seront créées dans ce dialogue, dans ces négociations, ne vont pas
concerner
pour les autres. Donc les autres diront que c'est ce que vous avez fait là-bas ne nous concerne pas, et ça concerne que vous-même. Et ce sera un réseau patrimoine. Voilà pourquoi, dès le départ, déjà, un dialogue ou une négociation, par définition, doit être inclusive. Et ce n'est pas pour lui. Et ce n'est pas en fait qu'elles-mêmes ont inclus cet objectif d'inclusivité. Du dialogue inclusif. C'est pas pour rien qu'ils mettent ça à la fin. Parce qu'ils savent que, au départ, déjà, un dialogue ou une négociation doit être inclusive.
Voilà, merci beaucoup Jonas d'avoir appelé de Matadi. On va prendre Célestin Mukuna qui est à Kinshasa, il est de la diaspora canadienne. Célestin, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour JR, bonjour à tous les auditeurs de Radio de la Paix.
Quel est votre avis, Célestin?
Chers journalistes, je suis désolé de la compréhension, d'inalphabétisme politique et de la non-compréhension de nos politiciens. Le point de départ, c'est quoi? Il y a la Constitution qui nous dit qu'on devrait avoir un représentant de l'opposition qui n'a jamais été à sa place jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a quand même l'aîné de l'opposition. Pourquoi pas, regarde maintenant par exemple l'AMP, ils sont tranquilles parce qu'ils ont leur autorité morale qui a donné la liste facilement. Pourquoi on ne prend pas juste, par exemple pour l'opposition, l'IDP ça fait ses preuves depuis tout le temps qu'il est l'aîné de l'opposition. On le confie, et d'ailleurs nous avons suivi la fois passée le secrétaire Mavungu qui a dit que en prenant la part des 12 représentants pour la facilitation des coteurs, ce n'est pas pour que toutes ces 12 soient du DPS. Lui va choisir les opposants qui lui inspirent la confiance, dont la population peut dire oui, voilà les opposants de M. Kabila.
ça c'est l'année tienne. Du côté de la société civile, moi je pense qu'on devrait prendre comme aîné de la société civile l'Église catholique. Il a fait ses preuves sur sa façon de gérer la situation, parce que vous n'allez pas me dire que l'Église catholique par rapport à toutes ces églises, c'est la moindre.
Oui, mais c'est l'Église catholique ne fait pas l'unanimité au niveau des confessions religieuses, pour preuve. Lors de la désignation de membres pour la CENI, on a vu combien ils ont été ils se sont divisés. C'était pratiquement le même film lorsque on devait choisir à nouveau l'abbé Malumalu. L'Église catholique n'a jamais désigné Malumalu selon les informations de notre possession.
Merci, JR. Vous avez pleinement raison. Mais n'oublie pas quelque chose, que ici en Afrique, ce que nous disons, ce n'est pas ce que nous faisons. Ce qui se fait pendant la journée, ce n'est pas ce qui se fait le soir ou la nuit. Avez-vous de preuves que, effectivement, si l'Église catholique n'a pas accepté Malumalu, c'était pour un bien-être de la population, pour pourquoi est-on avec Malumalu aujourd'hui? N'est-ce pas l'Église catholique avait raison? Et toutes ces églises-là proviennent d'où? Qu'est-ce qu'on appelle pour les protestants? Ce sont des gens qui se sont révoltés, comme ce fut le cas présentement. N'allez pas, il ne faut pas s'en prendre à l'Église catholique. L'Église catholique a fait beaucoup de preuves. Vous n'allez pas aujourd'hui nous dire que l'Église catholique, c'est la poubelle. Pourquoi vous avez des difficultés à les écouter? Pourquoi vous ne voulez pas vous asseoir autour d'une table et voir est-ce que réellement ce que l'Église catholique ou ce que l'UDPS dit est vrai ou faux? Tout ce monde qui font trop de bruit de la nuit, nous le voyons passer par là, qu'est-ce qu'ils font? Chers compatriotes.
Voilà. Alors, oui. Céleste, si je comprends bien pour vous, la composition pouvait être très simple. On prend la majorité et l'opposition, on pense à la fille aînée de l'opposition. Et au niveau de la société civile, on pense à l'Église catholique qui a déjà fait preuve d'une certaine moralité dans les faire ou dans les savoir-faire.
Vous êtes génial, JR. C'est le même message. Cette façon de raisonner-là pouvait être véhiculée à tous les journalistes comme toi, à toutes les stations de radio et de télévision, pour que cette émission soit véhiculée avec tout le monde. Je pense que le Congo va marcher.
Merci beaucoup.
Nous allons vous faire voir. Je voudrais vous donner.
Oui. Un instant, monsieur Célestin. Nous vous gardons en ligne. On revient à vous juste après. Le flash d'information 081-890-6315 pour votre intervention en direct. Mesdames et messieurs, une fois encore, merci de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs. Téléphone. Avant le flash d'information, vous parlez, donc vous avez fait une proposition, c'est-à-dire autour de la composition du comité préparatoire. Vous avez dit, on prend la majorité qui a déjà l'autorité morale, et cela a été facile pour l'élaboration de la liste. Pour l'opposition, le fait qu'il y a déjà ces désordres constatés, vous auriez souhaité qu'on puisse donner la responsabilité à l'UDPS, qui est la fille aînée de l'opposition, et du côté de la société civile, pourquoi pas faire confiance à l'Église catholique.
Tout à fait. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. La conscience, le professionnalisme, l'amour, l'affection, la tendresse. Vous n'allez pas remettre en question l'UDPS comme aîné. Vous n'allez pas remettre en question l'Église catholique comme aîné. Et tout ce qu'ils font à travers le monde et à travers le Congo, notre pays. Je vous invite. Véhiculer ce message avec tous les Congolais.
Alors, est-ce que vous pensez que ça serait encore possible d'obtenir un consensus autour des termes de référence aujourd'hui, des partisans ou des non-partisans du dialogue?
MSGR, moi je vous dis que si l'Église catholique, on les confie cette responsabilité-là, nous l'avons dit à la Conférence nationale sur le thème. Où nous avons abouti, tout va bien se passer. Et si on confie les 12 personnes à l'UDPS pour trouver les gens avec qui ils vont venir dans le dialogue, vous trouverez que tout va bien marcher. Et Eden Kodjo arrête de se faire comme si tous les Congolais étaient des idiots et pour voyager le Kumbaji, aller à gauche, aller à droite. Si le processus électoral est bloqué aujourd'hui, nous avons suivi le président de la République. En décembre, il a dit, j'ai demandé aux amis de la FENI d'attendre. Vous avez dit, tout le monde a crié, mais quand Tamir a dit que c'est, la priorité n'était pas de se prononcer à la présidence, mais la priorité était de se combattre pour les élections. Tout le monde a crié, où est-on avec Katumbi aujourd'hui? Il est devant le bar.
Merci,
mon compatriote.
Merci, merci beaucoup.
C'est facile de. Non, c'est Kondio arrête. Qu'il confie la responsabilité.
Voilà, heureusement pour nous, nous avons contacté le bureau d'Edem Kodjo. Nous avons eu la chance d'avoir son assistant, M. Cornelius, évidemment, au cours de cette émission, d'ailleurs, en début de cette émission, qui nous a apporté quelques précisions en disant que M. le facilitateur réserve la primaire à la population dans les jours qui viennent et il promet, en tout cas, d'être notre invité, pourquoi pas, pour éclairer davantage la lanterne des uns des autres sur. Là, le retard accusé dans la mise en place effective de ces comités préparatoires et les consensus si ou non est obtenu autour des termes des références de partisans ou des non-partisans du dialogue. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir appelé. Frédéric, nous vous appelons, vous êtes à Kananga, voilà, merci d'avoir appelé et d'accepter de participer à cette émission. Frédéric, bonjour.
Frédéric Chibona, je vous appelle à partir du Canada. Je suis en train de comprendre que, ensemble avec vous, vous devez comprendre cette histoire. Nous-mêmes, comme vous ne parlons pas à aider, à nous aider, on ne saura rien faire. Parce que, si nous-mêmes, nous sommes à la base de tout ce qui se passe ici, il est vrai que nous-mêmes aussi, nous sommes capables de trouver une solution. Comment pensez-vous l'opposition qui est constituée de toutes sortes de partis qu'on est en train de raconter là, n'est pas capable de mettre en place une structure pouvant nous aider à vraiment un comité organisateur, disons, si un petit comité constitué de 12 personnes, ils veulent que toute la République puisse participer à ça. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'ils veulent au juste? S'ils ne parviennent pas à trouver une solution à ces petits problèmes comme ces derniers, comment est-ce que vous allez nous amener aux élections et à trouver quelque chose de bon avec le temps? C'est pour moi que je voudrais dire vos frères que puissions-nous dans les îles s'ils l'aident. Donc, puissions-nous dans les côtés. Ce qui se passe, c'est que les Congolais sont en train d'être pris en otage par nous-mêmes, les Congolais. Nous devons comprendre que nous devons faire les choses avec des objectifs. Qu'est-ce que nous voulons? Pourquoi nous allons au dialogue et nous allons aboutir à quoi? Si le début est compliqué comme ça, comment est-ce que vous allez vraiment vous attendre à une fin vraiment exacte? C'est ça au moins ma contribution à ce niveau-là. Je demande à l'opposition de pouvoir faire le plus tôt possible pour ne pas aussi favoriser ce que eux-mêmes appellent glissement, si réellement ils sont en train de faire ce qu'ils font là. Jusqu'à quand est-ce qu'on va toujours continuer dans des discussions qui n'aboutissent à rien? Parce que jusque-là, rien n'est fait. Edem Kodjo ne fait qu'attendre et ils sont en train de faire toujours des manigances politiques. C'est comme s'ils sont en train de jouer le jeu de. Donc. Comme s'ils n'aiment ça, comme s'ils n'aiment pas ça, vraiment c'est la politique de l'Autriche. Ce que nous devons dire que nous devons prendre conscience, constituer ce comité-là, donner à Edem Kodjo qu'il soit à lui vraiment, donc qu'il se sente dans son bain, qu'il travaille, qu'il puisse nous aider, mais nous aussi à notre tour, nous devons l'aider à nous aider. C'est ça aussi ce que je voulais intervenir. Merci.
Merci beaucoup Frédéric. Edim, vous êtes à la Vandouville. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, bonjour, par exemple, M. le journaliste.
Quel est votre avis?
Oui, merci. Ma préoccupation est ceci. Hein.
Oui, est-ce que vous avez dit
longtemps que nous sommes dans cette parabole en disant dialogue. Alors, il y a si longtemps, on a déjà parlé de dialogue. Mais si aujourd'hui, le fait ne fait pas les dialogues et il veut développer le dialogue, c'est bien aussi, c'est vrai. Alors, ceux qui veulent faire des dialogues, c'est le moment. Et on est en train d'infliger à tout le monde, il faut qu'on ait un dialogue. Jusqu'à quel moment?
Voilà, Edim,
on allait au moins chercher comment à mettre la
possibilité Voilà, Edim, les choses ont évolué. Actuellement, on attend la mise en place effective de comité préparatoire. Les choses bloquent. Pour vous, qu'est-ce qui bloque?
Non. Pour moi, il fallait que quelques gens vous lisent. Il y a le dialogue, que tel que l'IDPS et les autres là, il faut qu'ils parlent de dialogue. Mais ceux qui n'ont pas voulu, ils restent comme ça. On les attend, ça ne passe pas le moment.
Merci beaucoup. Akilimani, vous êtes à Kisangani. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quel est votre avis?
Merci. J'ai d'abord actuellement l'équipe et je profite aussi de cette occasion pour présenter d'abord mes salutations à tous les auditeurs de la radio CAPI, à ne pas oublier mon docteur Lumanga. Gérard, le docteur Paul. Monsieur le journaliste, depuis que j'avais entendu parler du dialogue, j'ai été vraiment désolé jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre, on est en train de parler du dialogue et du dialogue. D'abord, quel est le but de ce dialogue et qu'on veut organiser pour ce
Akilmani, le débat aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on n'arrive pas à mettre en place de manière effective les comités préparatoires, c'est ça la question.
Bien, la question est bien comprise et je suis vraiment très fier d'y répondre dans le sens que rien ne bloque vraiment cette opération, mais ce sont les gens qui sont censés à le faire qui se trouvent vraiment dans l'enclume et le marteau. À ne pas se lancer dans des problèmes vraiment qui ne sont pas très conformes, très dignes, encore très bien qu'il n'y a pas eu une place de dialogue pour se passer en RD. C'est parce qu'il n'y a pas une crise politique. Si nous étions partis au dialogue en 2002, c'était juste
voilà,
parce qu'il y avait
des guerres. Merci beaucoup, Akilimani. Nous essaierons de nous perdre un peu parce que là, on est dans une autre étape. Hein, la discussion sur l'opportunité ou non de la tenue du dialogue, ça c'est des débats déjà que nous avons réalisés avant, mais maintenant c'est la mise en place effective du comité préparatoire, hein, donc les choses avancent. 081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Au Capitan, du mercredi à 21h à minuit, le vendredi de 23h à minuit et le samedi Mégamix de 19h à minuit. Au Capitan Highway, tous les mercredis de 21h à 22h, c'est la découverte des nouveaux talents, des nouveaux sons, des Congolais et d'ailleurs.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Nguyen.
Voilà, on va terminer avec ce dernier auditeur qui nous arrive également. Junior, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Quel est votre avis?
Ouais, selon moi, mon avis est vraiment, je partage les avis des autres auditeurs pour trouver une solution, parce que si vous regardez au niveau de la majorité, il y a un calme, donc les choses sont un peu ordonnées, de sorte que à n'importe quelle heure que les facilitateurs annoncent les débits, et la majorité est prête. Et si au niveau de l'opposition jusqu'à présent, il n'y a pas eu un consensus valable qui peut permettre un bon déroulement de ces dialogues, c'est-à-dire au niveau de l'opposition. Parce que si aujourd'hui, au niveau de l'UDPS, l'UDPS réclame la paternité des 12 chaises, et alors, quelle est la liste que les autres partis ont fait? Bon, je ne fais pas les avocats, mais du fait qu'ils sont en train de bloquer toute une nation au niveau de leur organisation interne, ils doivent faciliter le facilitateur, enfin, que les choses puissent se dérouler comme il faut. Ils ont réclamé ces dialogues, ça fait longtemps. Et aujourd'hui, au niveau de l'organisation, ils nous bloquent. Alors, si le facilitateur nous écoute à l'instant, il peut vraiment attribuer les 9 chaises à l'UDPS et les 3 autres chaises, les alliés, pour que les choses puissent bien évoluer. Parce que...
Voilà, merci Junior. Merci à Sylvain Matundou qui a assuré la mise en onde de cette émission. Réalisé par Piro et la Mégie, Julie Fesabourmonde et Tessanda, Vierge Nguyen-Boy, le plaisir de coordonner et présenter ce programme sous la supervision de Martin Sebouzangé. À très bientôt.